Et vous allez aller dans Matthieu au chapitre 6. Voyez, on va ouvrir la Bible, hein, ne soyez pas étonnés. Et ce que nous allons faire, c'est que nous n'allons pas copier ce qui se passe dans certains lieux religieux. Je dis cela pour vous dire que les versets que nous allons lire, nous ne devons pas les lire comme une vaine redite, une répétition. Mais ce que nous allons lire maintenant, très sérieusement, c'est la prière que Jésus a enseignée. La prière que Jésus nous a enseignée, ce n'est pas des paroles qui doivent être dites à la légère, mais qui doivent être réfléchies, prononcées avec sincérité, croyant que la prière qu'il nous a enseignée est une prière efficace, parce qu'en plus cette prière, nous l'accompagnons de son nom, c'est-à-dire au nom de Jésus. Voilà, je pense que vous avez trouvé au chapitre 6, et nous lirons simplement à partir du verset 9e. Et comme je ne veux pas être seul à la lire, vous allez me suivre et vous allez la lire aussi à haute voix. Est-ce possible? En mesurant bien les paroles que vous allez prononcer. Verset 9, « Voici donc comment vous devez prier, dit Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais voilà, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous rasseoir. C'est une très belle prière que le Seigneur a enseignée à tous ses enfants, on dira à tous ses élus. Et cette prière, il ne faut pas la dire, comme je l'ai précisé tout à l'heure, comme une vaine redite, mais nous devons bien mesurer les mots de cette prière. Nous n'allons pas nous arrêter sur toute cette prière, mais simplement sur une pensée que le Seigneur Jésus a exprimée dans cette prière. Et nous l'avons dit de tout notre cœur, et si vous l'avez dit de tout votre cœur, c'est que vous y croyez. Oui ou non? Et vous savez ce que vous avez dit d'important, entre autres, bien que tous ces mots sont importants, mais je vais simplement souligner ces mots. À la fin du verset 10, nous avons tous prononcé « Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel ». Amen. Maintenant, il faut être un petit peu plus précis, c'est que ta volonté me soit faite. Mais quand on réfléchit, que ta volonté soit faite comme au ciel, comme sur la terre, c'est bien, mais c'est un, permettez-moi ce terme, c'est un emballage. On pourrait prendre ça comme un emballage, mais c'est beaucoup plus précis que cela. Ça veut dire que nous sommes d'accord que Dieu fasse sa volonté dans nos vies. Et à partir de ce moment-là, ce n'est pas toujours facile de faire la volonté de Dieu. Ainsi, je vous transporte maintenant dans Romains au chapitre 12 et verset 1er. C'est une épître qui est écrite à l'église de Rome par l'apôtre Paul, comme vous le savez. Et voici ce qui est dit, donc Romains, chapitre 12, verset 1er. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir son corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ne vous conformez pas au monde présent ou à ce siècle présent, suivant les traductions, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Ce qui veut dire que la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite, mais que la volonté de Dieu qui veut s'appliquer à notre vie, c'est pour nous amener à connaître ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Car vous n'êtes pas sans savoir, mes frères et sœurs, que ce que Dieu attend de nous, c'est que nous atteignions par sa grâce la perfection. Amen. Je ne sais pas vous, mais je dirais entre guillemets, il y a peut-être encore du boulot à faire. Non, moi j'ai rien dit. Je souligne. Et que nous devons, comme dit l'apôtre, tendre à la perfection. Mais la perfection, mes frères et sœurs, c'est d'accepter la volonté de Dieu afin qu'il nous amène à la perfection. Par sa grâce, par la puissance de son esprit et par notre bonne volonté, et je répète sciemment, de faire sa volonté. Et ça, c'est quand même quelque chose que le chrétien doit comprendre. Nous ne sommes pas appelés, lorsque nous prions, par exemple, de dire à Dieu, « Fais ma volonté !» Jamais. Jamais penser que Dieu doit faire tout ce qu'on exige, parce qu'on ne doit rien exiger de Dieu, puisqu'il est écrit que nous obtenons tout par grâce. Par contre, ce que Dieu exige de nous, c'est que nous fassions sa volonté. Et la volonté de Dieu a un but, c'est de nous amener en vainqueur dans la vie éternelle. Il est bon aussi peut-être de souligner que la volonté de Dieu risque de ne pas nous être agréable. Mais nous devons l'accepter. Ainsi, regardez bien, nous avons lu dans Romains, donc ceci, au verset 2, je vais juste prendre, oui je vais le relire. « Ne vous conformez pas à ce monde ou au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez. » Il faut s'arrêter 2 minutes sur ce terme, sur ce verbe, discerner. Discerner quoi ? Discerner quelle est la volonté de Dieu. Et de peut-être pas prendre notre volonté pour sa volonté. Ça serait une erreur. Ou ne pas prendre non plus parfois des paroles des uns et des autres comme étant la volonté de Dieu, car ce n'est pas sûr que ce que nous entendons soit la volonté de Dieu. Donc demandons à Dieu l'intelligence. C'est vrai, mais permettez-moi de rester dans ce terme intelligence en vous disant simplement, demandons à Dieu la sagesse de pouvoir discerner si ça vient de lui, si c'est sa volonté. Car en fait, quand on regarde le verbe discerner, quand on regarde son application, il y a d'autres pensées qui sont données dans ce verbe discerner. Alors je les ai notées. Discerner, c'est aussi admettre. Là, on a un éclairage nouveau. Si je discerne, c'est que je veux admettre. Ensuite, c'est aussi, mais c'est des synonymes, consentir. Je consens à ce que la volonté de Dieu se fasse dans ma vie. Alléluia. Parce que je sais que la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Et qui dit admettre, consentir, ça m'amène à cet autre verbe, très simple, accepter. Et là, on peut se poser une question, mes frères et sœurs. Est-ce que nous sommes d'accord, d'accepter la volonté de Dieu, quoi qu'il me demande. Dans ce qu'il nous demande, je dis bien, à nos yeux, nous allons peut-être rechigner, pas être trop d'accord. Mais ce n'est pas à nos yeux c'est aux yeux de Dieu. Et si Dieu nous demande quelque chose qui peut nous peiner quelque part, c'est parce qu'il sait que c'est bon et agréable et parfait pour nous, et il faut l'accepter. Parce que ce que Dieu veut, c'est toujours que nous avancions de progrès en progrès. Vous savez, quand on lit la parole de Dieu comme moi, on est parfois étonné. Quand je dis parfois que Dieu peut nous demander dans sa volonté de faire ou d'accomplir des choses qui pourraient nous contrarier, nous attrister, à laquelle nous ne serions pas d'accord. Mais Dieu est au ciel. Il fait ce qu'il veut. Et il nous demande de faire ce qu'il veut. Même si on ne comprend pas. Je vais prendre un exemple de l'Ancien Testament, mais je vais essayer de le résumer courtement parce que vous le connaissez tous. Regardez Abraham. Parlons un peu vite fait d'Abraham. Mais Abraham, par rapport à sa femme légitime, ne pouvait pas avoir d'enfant. Vous vous souvenez de ça? Puis Dieu va lui dire, je vais te donner une descendance qui sortira de tes entrailles. Pensez, cette promesse était merveilleuse. Déjà là, il y a le temps de Dieu, parce qu'il a eu cette promesse à 75 ans. Il a eu le fils promis de ses entrailles avec Sarah, miracle extraordinaire, à l'âge de 100 ans, alors que tous les deux ne pouvaient plus concevoir. On est bien d'accord? Donc, il a attendu entre ces deux dates 25 ans avant que s'accomplisse la promesse. Imaginez la joie, Isaac est arrivé. Quelle joie! Mais quand Isaac fut ado, Dieu parla à Abraham. Et il va lui dire, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Quand il est dit, donne-moi ton fils, cela vient dire, quand on lit tout le texte et qu'on a compris, c'est offre-moi ton fils en sacrifice. Est-ce qu'on peut imaginer la réaction d'Abraham, ou ce qu'elle aurait pu être plus exactement? C'est quand même quelque chose de difficile. Abraham aurait pu dire et contester cette parole de Dieu, mais tu m'as donné une promesse, tu m'as donné un fils, maintenant tu me le réclames, mais ça veut dire quoi? Moi, j'ai toute mon espérance dans ce garçon que tu m'as donné, tu as dit que c'était ma descendance, et que j'aurais une grande descendance. Qu'est-ce que tu me demandes là? Il aurait pu, à la limite, mais il n'a pas le fait, comprenons-nous bien, il aurait pu se révolter, parce que Dieu lui demandait quelque chose auquel il tenait le plus. Je vous fais remarquer qu'il est bien stipulé dans ce passage, celui que tu aimes, c'est-à-dire, donne-moi celui que tu aimes le plus. Mais on s'aperçoit que Abraham n'a pas discuté. Il a obéi. Même Isaac a été pour lui une petite épine, parce qu'il a dit, mais je vois bien tous les ustensiles, toutes les choses pour faire le sacrifice. Et puis il lui pose cette question, mais où est l'agneau pour le sacrifice? Et là, nous avons la réponse de foi d'Abraham. Mais Dieu se pourvoira à lui-même. Il n'y a pas encore de révolte là. Pourtant, quand Abraham prononce cette parole, il sait très bien que il va offrir son fils en sacrifice parce qu'il veut être agréable à Dieu. Alors ils montent au mont Morija, l'emplacement, l'autel, ils font tout. Isaac y participe certainement. Et il arrive ce moment crucial, car je dis un moment crucial. Abraham va prendre son fils, il va le placer sur le bois. Dieu aurait pu intervenir là. Dieu n'est pas intervenu. Peut-être que dans le cœur d'Abraham, puisqu'il a dit « Mon Dieu, ben Dieu se pourvoit à lui-même », il disait « Ben Dieu va pas tarder à agir, je l'ai mis sur le bois, là. Le feu est là, je vais mettre tout en action dans quelques minutes, et puis il faut que j'offre, il prend le couteau, et toujours rien, Dieu ne se manifeste pas !» Il lève le bras pour sacrifier son fils, et au moment où il va descendre son bras armé de ce couteau, Dieu envoie le bras qui va arrêter le geste d'Abraham. Avec cette parole, maintenant, je sais que tu crains Dieu. Et savez-vous que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Alléluia. Quel exemple. Vous ne trouvez pas que c'est un bel exemple? Et Dieu a accompli toutes les promesses à l'égard d'Abraham, à l'égard d'Isaac. Ce peuple est devenu un peuple nombreux, avec toutes les bénédictions. Alléluia. Jusqu'où Dieu peut-il aller avec nous pour accomplir sa volonté? Réfléchissez, réfléchissons 2 secondes, et je vais dire, est-ce que nous sommes tous les uns et les autres prêts à accepter aussi loin que Dieu le veuille pour que sa volonté s'accomplisse, pour lui démontrer véritablement que nous l'aimons, qu'il est le premier dans notre vie, que nous voulons faire ce qu'il nous demande, même si ça doit nous coûter beaucoup. Mais au bout, il y a la vie éternelle. Alléluia. Tout ça est à considérer. Et je pense que parfois, on peut se dire, et je pense que c'est, entre guillemets, un peu logique, mais il faut vite se ressaisir, de dire les difficultés par lesquelles nous passons, qui ne sont pas agréables. Parce que ce sont parfois pour les uns ou les autres des épreuves difficiles et terribles. Mais il faut toujours compter sur la grâce de Dieu. Toujours compter sur la fidélité de Dieu. Toujours compter sur les promesses de Dieu qui a dit « Ne crains pas, car je suis avec toi. Fais seulement ce que je te demande. Fais ma volonté. » Alors, dans Parole de vie, vous savez que j'aime lire d'autres traductions, je vous en ferai part, enfin je vous dirai pas chaque fois le nom de la Bible, vous faites confiance, mais vous aurez les références. Il est dit dans le verset 2 que nous avons lu, mais dans, là je précise, parole de vie, « Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle, une sagesse nouvelle. Ainsi vous pourrez savoir ce qu'il veut. » Alléluia. Ainsi nous ne marcherons pas, n'avancerons pas à l'aveuglette, mais les yeux fixés sur Dieu, sur Jésus-Christ. Alors il nous conduira dans toute la vérité avec l'aide de son Saint-Esprit. Alléluia. Vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Alléluia. Que Dieu nous aide à progresser, à avancer, à grandir dans la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Dans le Nouveau Testament, je vais simplement souligner cela, quel est donc, si je ne me suis pas trompé en recherchant, quelle est donc la première personne qui a accepté, je dis bien dans le Nouveau Testament, de faire la volonté de Dieu? C'est Marie, exact. Jésus n'était pas encore né, puisqu'elle a été choisie pour mettre au monde le Fils de Dieu. Jésus, Marie. Et quand on lit ce texte, en ce qui concerne Marie, qui est Luc et le verset 31, eh bien, il nous est dit ceci, je vous le lis dans Parole vivante, voilà la parole que Marie a prononcée à l'ange, après qu'elle a entendu le message qu'elle avait été choisie par Dieu, elle dit, « J'appartiens au Seigneur. » Que tout se passe pour moi comme tu viens de le dire. Et ce que vient de dire l'ange, c'est la volonté de Dieu. C'est une bonne volonté, quelque part. Dans une autre traduction, français courant, il dit, Marie répond, je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu l'as dit, et l'ange la quitta. Alléluia. Là, il y a un petit mot que je souligne aussi, et qu'on retrouve depuis l'Ancien Testament jusqu'à la fin du Nouveau Testament, donc dans toute la Bible. Ça, si un jour vous voulez faire une étude là-dessus, vous vous y mettez, et que Dieu vous bénisse au travers, c'est le mot en 4 lettres. Tout. Oui ou non? Marie entend la parole de Dieu, elle dit « c'est sa volonté, alors qu'il fasse tout ce qu'il veut avec moi, et que tout ce que tu as dit s'accomplisse. » Or, la parole de Dieu s'accomplira toujours. Alléluia. Maintenant, si je vous ramène encore un tout petit peu dans l'Ancien Testament, pourquoi, là aussi, pourquoi, un premier exemple, Noé et sa famille furent sauvés? Vous dites, c'est bien, mais il y a mieux. Oui, mais vous, il faut être plus précis. Oui, mais... Bon là, j'arrête parce que, vous voyez, vous suivez sans suivre, sans excuser ce que je vous dis, mais j'ai parlé d'un mot en quatre lettres. Et il a été sauvé parce qu'il est écrit, il a tout fait, tout accompli, tout ce que Dieu lui demandait, et il fut sauvé. Nous voulons être sauvés, acceptons tout ce que Dieu nous demande. Mais ce n'est pas le tout d'accepter, c'est de le faire, c'est de le croire, c'est de s'y soumettre. Et là, ça devient peut-être un peu plus difficile. Mais nous savons que nous pouvons compter sur la grâce de Dieu pour nous aider à accomplir sa volonté. Maintenant, encore un petit exemple. Si ce matin nous sommes là dans la présence de Dieu, à louer, à partager, à entendre la parole de Dieu, c'est parce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Oui ou non? Co-héritiers avec Jésus-Christ de la vie éternelle. Oui, mais alors, réfléchissons deux secondes et remontons un petit peu l'histoire. Nous sommes sauvés parce que nous avons entendu l'évangile, gloire à Dieu, nous y avons cru, nous avons obéi en passant par les eaux du baptême, nous sommes devenus enfants de Dieu. Oui, tout ça c'est merveilleux, mais si nous sommes là, c'est parce qu'un jour Jésus a accepté de faire toute la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'était qu'il donne sa vie pour que nous soyons sauvés aujourd'hui, demain, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne. Oui ou non? Jésus a dit à ses disciples, je ne suis pas venu accomplir ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et pour Jésus, quand on regarde le combat qu'il a mené à Gethsémané, car vous savez que c'est là que pour la première fois, le sang de Jésus a coulé. On parle souvent du Golgotha, mais c'est à Gethsémané. Son combat était tel que sa sueur a été mélangée avec le sang qui tomba jusqu'à terre, tellement le combat était intense. Parce que le Seigneur Jésus savait qu'en accomplissant la volonté de Dieu, il allait beaucoup souffrir. Et la prière qu'il a faite, non pas ce que je veux, ou plus exactement, non pas ma volonté, mais la tienne. Gloire à Dieu. Merci Seigneur d'avoir accepté de donner ta vie, de faire ta volonté dans des souffrances physiques. On pourrait presque dire même dans des souffrances sentimentales. Car n'oubliez pas sur la croix que le Seigneur Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais Dieu ne l'avait pas abandonné. C'est que pendant un instant, Dieu s'est détourné de Jésus-Christ parce qu'au moment où il était sur la croix, il était devenu, comprenez bien l'image, pécheur, puisqu'il prenait le péché du monde. Mais à la mort, il a été glorifié par sa résurrection déjà. Alléluia. Faire la volonté de Dieu, c'est... prendre la volonté de Dieu dans un sens positif et non pas négatif. Alléluia. Alors, des fois elle est bonne, des fois elle est difficile, mais je voudrais citer ce verset du roi David qui dit ceci dans le psaume 40, verset 9. « Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu. » Et je vois que vous êtes tous d'accord, vous avez dit tous « Amen ». Ou alors il y a quelqu'un qui a dit, moi je suis pas David. Mais si, Tu es enfant de Dieu. Et au cas où vous l'aurez oublié, David était un homme de la même nature que nous. Hein. Mais il connaissait Dieu, il aimait Dieu. Je ne vais pas citer tous les beaux versets ou paroles de David, mais j'ai noté celui-là parce qu'il est formidable. Je prends plaisir à faire la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que nous prenons plaisir à faire la volonté de Dieu? Quand ce n'est pas difficile, ok. Quand ça devient dur, on sera moins enclin à dire « je prends plaisir ». Et pourtant, en toute situation, le chrétien doit garder sa joie intérieure qui est la joie du Saint-Esprit qui nous habite. Donc, pas rechigner, hein. Là, je n'ai pas d'exemple, je ne vais pas donner d'exemple par rapport à ceux qui n'ont pas accepté la volonté de Dieu ou qui l'ont contesté. Ils ont connu cela, des moments difficiles. Oui, pourquoi faire? Pour les ramener dans la vérité, dans la pensée de Dieu, dans la volonté de Dieu. Car la volonté de Dieu, c'est qu'aucun de nous ne se perde, mais que tous nous soyons sauvés. Alléluia. Ça, c'est de la volonté de Dieu. Seigneur est bon. Il est dit dans Jean au chapitre 9, verset 31, « Mais si quelqu'un est attaché à Dieu ou honore Dieu et fait sa volonté, Dieu l'exauce. » Alléluia. Oui, mais Dieu exauce en son temps. C'est pour cela que j'ai précisé l'exemple d'Abraham tout à l'heure. Donc, ce qui veut dire que la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite, parce que cela nous apprend à rentrer dans la sagesse de Dieu, et n'est-il pas écrit que celui qui n'a pas la sagesse la demande à Dieu qui lui donnera. Mais en même temps, je m'aperçois que ça nous apprend la patience. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Ça nous apprend la patience. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 17, ceci. C'est parole vivante, ça. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables et imprudents, ne vivez pas en dilettante, mais à travers tout ce qui vous arrive, en toutes circonstances, cherchez à comprendre ce que le Seigneur veut vous dire, puis tenez-vous fermement à ce qu'il vous demande. Alléluia. Que de belles paroles ce matin qui reviennent dans notre cœur et notre esprit. Ce qui peut être bon à souligner, c'est qu'il ne faut pas être des gens, comment vous dire, là je vais reprendre le terme, déraisonnables. Donc un chrétien, il est raisonnable. C'est vrai? Non? Bon, c'est pas grave. Imprudent, c'est-à-dire un chrétien est toujours prudent, il doit éviter de désobéir à la parole de Dieu, de faire ce que Dieu lui demande. Et puis j'aime bien ce terme, ne vivez pas en dilettante. Hein? On va changer le terme. Ne vivez pas d'une manière cool. Ah non, c'est pas grave, c'est bien, ça s'arrangera, on verra. Il n'y a pas urgence. En dilettante, cool. La Bible dit que le chrétien doit être vigilant en tout temps. Oui, non? Je ne sais pas, moi j'ai lu quelque part, je pense que ça doit être dans la Bible, hein, mais quelque part dans la Bible, il me semble qu'il est écrit « Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation ». C'est écrit ou pas? Alors quand on dit tentation, ce n'est pas toujours des relations qui ne sont pas légales entre couples, etc. En tentation, c'est par exemple résister à la colère. Parce que Dieu nous connaît bien. Hein. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Autrement, il y a un verset de la Bible qu'il faudra enlever. C'est Paul qui dit à l'Église, il dit, « Si vous vous mettez en colère, » quand il parle à l'Église, il parle à tous ceux qui sont présents dans la salle, qui l'écoutent. Ce qui veut dire que, de temps en temps, notre nature d'humain revient au triple galop. Oui? Mais j'ai pas fini le verset. Alors, il faut aller un peu plus loin. Et il est dit, « Et ne vous endormez pas sur votre colère. » je veux dire là d'une manière physique et d'une manière spirituelle. Parce qu'on peut se mettre en colère, mais je pense que ce n'est pas le cas, hein, comprenez-moi bien. On peut se mettre en colère peut-être entre mari et femme ou autre chose. Mais on peut se mettre aussi peut-être hein, en colère avec un frère dans la foi, une sœur dans la foi, se mettre en colère. Oui, mais le Seigneur, il nous dit par son serviteur et par le Saint-Esprit, si tu te mets en colère, ne t'endors pas sur ta colère, ne va pas te coucher sur ta colère. Réconcilie-toi avant. Alors, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais ça m'a interpellé un jour. Et j'ai dit, Seigneur, ça c'est bien beau, cette phrase, cet enseignement est formidable. Et je me suis dit, mais pourquoi, précision, ne t'endors pas sur ta colère? Parce qu'en fait, nous devons tous être patients, doux, et si on se met en colère, il faut se pardonner, permettez-moi l'expression, vite fait. Alors, pourquoi? Moi, j'ai une petite réponse, je vais vous la livrer, c'est la mienne. Vous n'êtes pas obligé de la partager. Parce que j'ai lu aussi, quelque part dans la Bible, que le Seigneur Jésus reviendra à l'heure où on n'y pensera pas. Et il peut revenir la nuit ou le jour. Alors, ça, c'est facile à comprendre. Nous sommes, aujourd'hui, pour nous, c'est le jour, mais si vous allez en Amérique, il fait nuit. Donc, pour les uns, il viendra le jour, pour les autres, il viendra la nuit. Ça, c'est indéniable. Mais s'il revient en France la nuit et que je me suis mis en colère, que je n'ai pas demandé pardon, que je ne me suis pas réconcilié, la question que je me pose c'est, Seigneur, je n'ai pas obéi à ta parole, dans ce sens, est-ce que je vais partir? Oui, vous me dites si, mais moi je n'ai pas la réponse infuse là. La colère, dit un sage, n'est pas bonne conseillère. Parce que dans la colère, soyons logiques et allons jusqu'au bout de la réflexion, on dit des choses qui ne louent même pas Dieu et qui blessent tout le monde. Oui ? Or, j'ai lu quelque part, mes braves frères et sœurs, soyez en paix avec tous. Oui ou non ? Ça, c'est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, il ne faut pas la classer uniquement sur ce point, ou sur ce point, ou sur ce point, sur ce qui, en fait, m'est agréable. Or, je dois faire tout ce que la parole de Dieu m'enseigne, toute sa volonté, sans laquelle je ne verrai pas le Seigneur. Seigneur, aide-nous, et aide-nous à porter du fruit à ta gloire. Alléluia. Je vais vous citer ce verset qui se trouve dans Romains, au chapitre 12, verset 11, et qui est de la traduction du semeur en ce qui concerne la vigilance. Ne soyons pas, dira un autre texte, ne soyons pas des chrétiens insouciants, mais soyons de ceux qui aiment et qui respectent la parole de Dieu. Alors, je vais vous lire ce verset dans la parole du semeur. Il y dit ceci, « L'ardeur, n'hésitez pas. » Oui, ça va là ? « L'esprit, l'esprit d'en haut, soyez bouillant. »
Est-ce que ça boue? Oh, ça n'a pas l'air, hein?
Comme on dit, là, quand ça commence à bouillir l'eau, elle, on dit comment, là, mes braves sœurs, là? Elle frémit, merci. Merci, frère. Elle frémit. Et pour que ça fasse des bulles en haut, que ça bouge et tout, là, il faut mettre un peu de feu sous la casserole. C'est pas que je vous considère comme des casseroles, c'est pas ça du tout. Hein. Mais Seigneur, anime en moi un nouveau feu que je boue. Oui, alléluia. Où tu es froid, où tu es bouillant, parce que les tièdes, je les vomis de ma bouche. C'est le Seigneur qui le dit. Alors si vous êtes froid ce matin, spirituellement parlant, hein, demandez au Seigneur d'activer le feu par son esprit. Rends-moi bouillant pour toi, Seigneur. Alléluia. Mais être bouillant, ça ne veut pas dire sortez des limites que le Seigneur vous demande. Parce que être bouillant, ça aussi, ça se régule. Et être bouillant dans l'exagération, on va être plutôt gênant que ceux ou de celles qui vont construire. Mais on peut être bouillant et construire dans la sagesse, ou être sage et construire en étant bouillant pour le Seigneur. Est-ce que j'ai été assez clair dans les propos? Et ce verset continue. Le Seigneur, soyez bouillant. Le Seigneur, soyez bons, de bons serviteurs et de bonnes servantes. Alléluia. Puissions-nous dire ce matin, Seigneur, tu peux compter sur moi. Amen. Et puis si le Seigneur un jour vous dit, va balayer la salle, dites-lui, oui, Seigneur. Et ne lui dites pas, j'ai pas le temps, ou je dois aller faire mes courses, ou je dois aller, comme dans la parabole du Seigneur, je vais aller enterrer celui qui est décédé, je dois m'occuper de mes bœufs. Alors, ce qui veut dire en clair, j'ai pas le temps de m'occuper de tes affaires, Seigneur. On doit servir le Seigneur en tout temps, en toutes circonstances, en toute occasion, et chaque fois qu'il nous le dit. Amen. Le Seigneur peut changer nos projets. Bon, j'aime pas trop parler de mes expériences avec le Seigneur, parce qu'on pourrait croire qu'on veut se mettre en avant, mais juste un exemple. Dans une certaine région où j'exerçais le ministère, j'avais prévu, donc le matin, c'est tout pour le Seigneur, j'avais fait mon petit planning de visite, et je prends ma voiture l'après-midi pour aller faire mes visites. Je n'avais pas fait 15-20 kilomètres que d'un seul coup, j'entends quelque chose dans mon cœur qui me dit, va voir la sœur Boiron. Non, moi j'ai continué à calculer, déjà je pensais que c'était moi. Et puis je continue, et puis va voir la sœur. Alors là, ça commençait à me turlupiner quelque part un petit peu. Ça, c'est un mot gentil, ne vous effrayez pas. Je dis, mais j'ai pas prévu ça dans mon programme. Mais c'est vrai, je me rappelle comme si c'était hier. J'ai mon programme. Je continue, et là, va voir la sœur. Hop, demi-tour. Et je vais à la sœur, c'était tout à fait à l'opposé du programme que j'avais commis, mais il faut être soumis à la volonté de Dieu, il faut savoir l'écouter, il faut savoir peut-être réfléchir, voir si c'est vraiment la volonté de Dieu. Mais quand ça revient comme ça trois fois, moi je discute plus, j'y vais. J'aurai d'autres exemples dans ce sens, mais quand je suis arrivé là-bas chez la sœur qui était donc dans une ferme, une sœur, c'est une étonnante. Elle a commencé à travailler à l'âge de 12 ans et son métier, c'était bûcheronne. Et quand je suis arrivé, j'ai trouvé que sa fille est dans cette ferme. Je lui dis, mais elle est où, la maman? Elle me dit, eh ben, elle ne s'est pas levée, elle est couchée, elle ne va pas très bien, même très mal. Alors, je suis allé dans cette chambre, il y a une espèce d'alcôve, je suis rentré, c'était tout noir. J'ai dit, mamie, parce qu'elle avait de l'âge, mamie, où vous êtes? Je suis là, pasteur. Ah bon? Eh bien, je suis venu vous voir. Ça va pas, m'a dit. Non, ça va pas. Je dis, je vais prier pour vous. Oui, priez pour moi. Et puis elle me dit, j'ai prié pour que le Seigneur m'envoie son serviteur. Alléluia. Alors j'ai prié pour elle. Je suis resté 5-10 minutes, pas plus, parce qu'elle était vraiment, j'allais dire, au bout du rouleau. Ça, c'était un vendredi. Et le dimanche matin, au culte, le culte a commencé. On a prié. Puis au bout de 10 minutes, je vois la porte qui s'ouvre et qui je vois rentrer dans sa tenue normale du dimanche, son petit chapeau noir sur la tête, tout ça, tout au rosé, ma petite sœur qui rentre et qui vient louer le Seigneur. Alléluia. Ceux qui font la volonté de Dieu, Dieu les exauce. Alléluia. Ceux qui se soumettent à la volonté de Dieu vivent des expériences merveilleuses. Et servir le Seigneur, on peut le servir de multiples façons. On peut dans son église le servir par le témoignage, le service par la prospection, le service par le chant. On peut servir le Seigneur pasteur à plein temps, mais le Seigneur n'est pas obligé de faire de tous les frères des pasteurs à plein temps, même s'il faut prier pour qu'il y en ait qui se lèvent. Mais dans tous les cas, quand on aime le Seigneur, on peut lui être utile et faire sa volonté. Alléluia. Il y a aussi l'espérance. L'espérance, quelle soit votre joie. Vous brillez de la joie du Seigneur ce matin. Alléluia. Il y a aussi les... Aïe, aïe, aïe. je vais prendre quand même ce qui est écrit. Hein. Vous m'en voulez pas ? L'épreuve. Parce que, au cas où vous l'aurez oublié, l'épreuve, ça fait partie de la marche du chrétien. Eh oui. Et là, dans la traduction, il est dit qu'elle vous trouve plein d'endurance. Il n'est pas dit plein de courage, hein. Il est dit plein d'endurance. C'est que je vais vous dire peut-être un secret, mais peut-être pas. Une épreuve, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. C'est de l'endurance. Non ? D'ailleurs, il y a des gens qui, sans le savoir, prennent ce terme. Vous ne savez pas ce que j'endure. Oui, mais moi je suis heureux de vous dire ce matin, permettez-moi de prendre ce terme heureux, c'est que dans l'épreuve, il y a la durance, il y a la patience, et puis il y a le Seigneur avec nous, qui nous aide en tout temps et en toutes circonstances. Et qu'en fait, je n'ai pas besoin de m'appuyer ni sur les hommes, ni sur la science, même si elle est nécessaire. Mais avant tout, je m'appuie sur Dieu. Je compte sur Dieu. Et je compte sur la sagesse de Dieu pour donner la sagesse aux autres, pour pouvoir me sortir de mon épreuve. Et je mène le bon combat de la foi. Alléluia. Sachant que je ne suis pas seul, parce que j'ai aussi des frères et sœurs dans la foi qui prient pour moi. Alléluia. Ceci me dit le dernier point là de ce verset. La prière qu'elle soutienne votre persévérance. Amen. Qui dit endurance dit persévérance. Mais c'est par la prière que l'on va sortir vainqueur. Parce qu'elle soutient notre foi. Alléluia. La vie chrétienne, selon Dieu, c'est celle qui nous conduit par sa parole et par son esprit. C'est faire la volonté de Dieu, et en faisant la volonté de Dieu, on demeure dans la paix de Dieu. Ah ouais. Même si tout autour de nous bouge ou s'écroule, si on a construit notre vie sur le roc, on ne craint pas le vent et la pluie. On ne craint pas les obstacles qui pourraient surgir. D'ailleurs, dans le psaume 119, verset 165, il est dit « Ceux qui aiment ta loi connaissent une grande paix. Pour eux, plus d'obstacles. » Amen. On les voit, mais on les surmonte par sa grâce, parce qu'on est établi sur les promesses de Dieu et que Dieu accomplit toujours toutes ses promesses. Parce que si Dieu nous demande dans notre vie d'appliquer le tout, il nous dit quand même que lui, il applique toutes ses promesses à l'égard de chacun et à l'égard de l'Église. Il est fidèle. Gloire au Seigneur. Alors, je dirais que, simplement, pas moi, la parole de Dieu nous enseigne, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il y a quelque chose d'important, avant que je ne conclue, qu'il faut souligner quand même. On a parlé de persévérance, on a parlé de patience, on a parlé de sagesse, au travers de tous les exemples, d'accepter la volonté de Dieu. Mais voyez-vous, toutes ces choses ne pourront se vivre et nous pourrons les appliquer dans notre vie qu'à partir du moment où nous laissons l'Esprit de Dieu agir en nous. Et là, je vous ramène à Galates, chapitre 5, verset 22. Je vais le lire avec vous, pour vous. Moi, je le prends dans parole vivante, ce verset. Écoutez bien. Car l'Esprit de Dieu produit bien autre chose. Le fruit de l'esprit. Alors, je prends un exemple simple, hein, après je continue le verset. Il est parlé que le fruit de l'esprit, mais on va voir que le fruit de l'esprit est composé de bien des points. Alors, pour imaginer, je dis, le fruit de l'esprit, c'est une grappe de raisin. Vous avez le fruit de la vigne. En fait, c'est la grappe de raisin. Et la grappe de raisin, elle est composée de plusieurs grains. Est-ce que vous me suivez? Le fruit de l'esprit, c'est ça. Voilà. Le fruit de l'esprit, c'est l'esprit. Mais l'esprit, il est composé de comment vous dire? Je cherche le terme. De plusieurs actions, si vous voulez. Hein? Alors écoutez bien. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Puis, la joie. La paix. La patience. Je le dis ou je le dis. Le bon caractère. L'amabilité. La serviabilité. La bonté. La générosité. La fidélité. La confiance dans les autres. La douceur. La modestie. L'humilité. L'aptitude à céder et à s'adapter. Ah, j'en ai pas parlé, vous avez vu. La tempérance, la chasteté, la maîtrise de soi. Si vous avez la Bible du semeur, vous pourrez la lire chez vous. Vous verrez que je vais prendre ce terme, mais je pense que vous n'avez pas cette idée. Je ne mens pas. C'est écrit. Ce qui veut dire que si nous avons l'esprit en nous, mes frères et sœurs, nous devons appliquer à notre vie et à l'encontre des autres tout ce que nous venons de citer. Et la question se pose, y a-t-il une lacune quelque part? S'il y a une lacune, et je vais faire un rapprochement, parce que vous avez certainement noté, mes frères et sœurs, que tous ces points que nous avons cités sont liés par rapport à un seul qui commence la liste. Donc le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et c'est parce que le premier, je le classe ainsi, permettez-moi, c'est parce que j'ai d'abord le fruit de l'amour que je pourrai appliquer tous les autres. La patience, l'humilité, la bonté. Vous voyez, tous s'enchaînent. Et ce matin, il faut dire, bien Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Et remplis-moi de ton esprit, toujours pas dans l'idée d'exercer les dons spirituels, tout ça, non. Remplis-moi de ton esprit afin que je sois un bon serviteur et une bonne servante. Un bon témoin. Alléluia. Qu'on voit que je suis un enfant de Dieu et que même au travers de l'épreuve par laquelle je peux passer, car quand même la vie d'un chrétien n'est pas fait que d'épreuves, il y a aussi des temps de réjouissance, de paix, de bonheur, alléluia! Mais il y a des temps des plus difficiles, et là on n'a pas le temps de parler de cela, mais il faut bien que notre foi soit épurée pour pouvoir gagner la vie éternelle. Alléluia! Alors, bénissons le Seigneur de ceux qui veulent nous aider dans notre marche d'enfant de Dieu. Et je terminerai simplement par cette pensée. Être chrétien, faire la volonté de Dieu, c'est vivre avec Dieu et avec les hommes en harmonie, c'est-à-dire en paix avec Dieu et en paix les uns envers les autres. Vous savez, de temps en temps, je prends cet exemple pour essayer d'expliquer l'harmonie. L'harmonie. Revenons un petit peu sur la musique. L'harmonie, c'est nécessaire en musique. Des fois, vous voyez écrit « concert philharmonique ». Harmonie. Et quand l'orchestre qui est là, philharmonique, première des choses qu'ils font avant d'exercer, entre guillemets, leur talent, car il faut avoir des capacités pour rentrer dans un orchestre philharmonique, il y a les répétitions. Et puis, il arrive un jour qu'il y a la répétition générale. Mais la première des choses que fait un orchestre, parce qu'il y a plusieurs instruments, il y a le violon, c'est la contrebasse. Enfin, je ne vais pas vous citer tous les instruments, trompette, le cor, etc. Mais vous savez quelle est la première des choses que le chef d'orchestre demande? Hein? De se mettre au la. Parce que le la, c'est la base de tous les instruments. Alors le violon se met au bas, au là, le trompette se met au là, parce que tout se règle. Et là, on commence à rentrer dans l'harmonie. Parce que si un orchestre joue philharmonique sans qu'il soit accordé ou accordé les uns aux autres dans un même accord, dans la même base du la, c'est plus philharmonique. C'est je rentre, j'écoute et je sors en courant. Parce que c'est tout faux. C'est tout faux. Et qui voudrait entendre un concert où tout est faux ? Personne. Et encore en sortant, je réclame le remboursement de ma place. Eh oui. Mais quand je vais écouter, même sans aller dans un concert, vous écoutez à la radio, vous écoutez sur des CD, vous dites c'est beau, suivant le morceau qui est, que vous entendez, c'est beau, c'est magnifique. Il y en a même qui s'élèvent par la pensée. Hop là. Mais déjà d'écouter, c'est extra, c'est beau. Et quand je vous vois ce matin, je me dis, Seigneur, où il est le violoncelle ? Où est la contrebasse ? C'est des exemples, ça. Hein ? Où est le corps ? Hein ? Quand on apprend le chant, c'est la même chose. On chauffe les cordes vocales, et ensuite, bon, on nous apprend à monter un petit peu les octaves, mais ensuite, aussi bien le chef d'orchestre du concerto ou celui qui dirige la chorale va diriger les uns et les autres. Et ce que l'on demande aussi bien aux musiciens et aussi bien aux choristes, quand on est chef de chœur, c'est qu'aucun ne dépasse de la voix l'autre. C'est ça, harmonie et paix. Et quand il y en a un qui chante plus fort que l'autre, si vous faites partie d'un chœur vocal, on va vous faire signe, baisse un peu. Quand vous êtes en train de jouer, même pour les choristes, quand vous êtes en train de jouer, si malheureusement vous êtes là en train de faire une fausse note, et au violon ça s'entend rapidement, tous les autres continuent sans regarder celui qui a fait la fausse note. Harmonie et paix. Vous voyez l'autre qui est en train de jouer aussi à côté du violon, il se tourne. Hey, c'est ta faute. Est-ce que nous avons compris l'image ce matin? Que dans ce peuple harmonique, nous soyons tous au même diapason. Et le chef d'orchestre de l'Église, permettez-moi de le dire, parce que nous sommes tous là, aussi bien ceux qui sont sur l'estrade que vous qui êtes là, nous sommes tous dirigés par le même conducteur, et il s'agit de Dieu, de son esprit, de la personne de Jésus-Christ. C'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous dirige, et c'est lui qui nous dit, ne fais pas ça, fais ça par son esprit. Alléluia. Et alors, mes amis, l'amour que nous partageons sera plus grand les uns pour les autres. Et alors, qu'est-ce qui se passera ? Eh bien, on vivra ce que disent les actes des apôtres, et chaque jour s'ajoutaient à l'Église ceux qui étaient sauvés. Est-ce que vous croyez encore que cette parole donnée par l'Esprit de Dieu peut s'accomplir dans notre monde du XXe siècle ? À condition que les chrétiens ne s'accordent pas avec le siècle présent, c'est-à-dire avec les pensées et les actes du siècle présent. Le chrétien est à part, il vit pour Dieu et il est heureux. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Je vais laisser de suite la place pour les annonces et après tu termines par la prière.